le 4 juillet 1915, à deux pas du littoral occidental du continent nord-américain, Monsieur Samuel Hill, un Quaker dévoué à la paix et un constructeur de routes qui était très riche, s'est adressé à 4000 célébrants réunis à la frontière canado-américaine. Là, ils ont célébré un siècle de paix internationale et l'ouverture de la l'autoroute Pacific, Pacific Highway, désormais connue sous le nom de I-5. À la clôture de la cérémonie, un membre de la foule s'est levé et cette personne a proposé de construire une arche de paix internationale sur le site où il se tenait. Hill a accepté et a donné suite à la proposition. 6 ans plus tard, le 6 septembre 1921, Monsieur Hill se tenait devant une foule estimée à 10 000 personnes ou plus et consacrait l'Arche internationale de la paix à la cause de la paix mondiale. La guerre ne satisfait ni les vainqueurs ni les vaincus, a-t-il déclaré en ouvrant son discours de dédicace. La paix, seulement la paix parfaite, suffit. Depuis près de 100 ans maintenant, l'Arche de la paix tient entre les voies d'autoroute où des millions de voyageurs se dirigent vers le sud dans l'État de Washington ou vers le nord en Colombie-Britannique. Ils ont vu comme un symbole de paix et ils le voient toujours. Voici une présentation de ce que c'est cette arche de la paix. Cette arche de la paix qui a été érigée en 1921. Sur l'arche de la paix, il y a deux façades. Donc, l'Arche de la paix, en fait, est située sur la frontière réelle, la frontière canado-américaine. En fait, l'édifice se situe sur le point exact de cette ligne invisible. Et sur l'Arche de la paix, comme vous le voyez sur votre écran, il y a deux drapeaux, l'un du côté américain et l'un du côté canadien. Et il y a aussi deux inscriptions. Il y a sur le côté américain, enfants d'une mère commune. Mais c'est écrit en anglais, children of a common mother. Et sur l'autre côté, sur le côté canadien, et nous voyons dans cette diapo ici, il est écrit sur l'autre face, frères demeurant unis ensemble, et avec le drapeau canadien au-dessus. Brethren dwelling together in unity. C'est ça qui est écrit en anglais. C'est la même chose que nous venons de chanter avec la psaume 133. Que les frères demeurent unis ensemble. C'est très beau. Il y a tout un parc qui entoure cette arche de la paix. Dans ce parc, et c'est très bien maintenu, dans ce parc, on peut circuler, si on est du côté américain, on peut circuler sans besoin de passeport, parce que même si on sort des États-Unis, on ne rentre pas au Canada. On est dans une zone internationale. Et si on est du Canada et on va dans ce parc, on est dans une zone non canadienne, mais on est dans une zone internationale. Donc, on n'a pas besoin de passeport parce qu'on ne va pas traverser la frontière. On va juste rentrer chez soi. Mais lorsqu'on se trouve dans ce parc, nous sommes dans une zone dédiée à l'échange international. Très intéressant que ce parc est devenu sujet de paix cette année. La paix de cette arche de la paix a été quand même, la signification a été encore plus importante récemment. Je vous explique. Le parc autour a été fermé en mars, au mois de mars, à cause de la fermeture de tous les parcs publics. Donc, le parc a été fermé parce que la pandémie du coronavirus a attiré l'attention des gouvernements américains et canadiens. Peu de temps après, la frontière canadienne a également été fermée. Le parc a depuis rouvert ses portes, mais comme vous le savez, la frontière américaine, canado-américaine, demeure fermée. Par contre, la réouverture de l'Arche de la Paix et le parc qui l'entoure a conduit à de nombreuses retrouvailles heureuses de membres de la famille qui ont été séparés depuis la fermeture du parc et depuis la fermeture de la frontière. C'est le seul endroit sur cette longue frontière où ils peuvent légalement se voir en raison des restrictions COVID-19. Si ce parc n'existait pas, ces visites ne seraient pas possibles. Un article de CTV News déclare « Le jour de la réouverture du parc provincial de l'Arche de la Paix, des dizaines de couples et de familles se sont présentés de chaque côté de la frontière pour retrouver leurs proches. Le simple fait que ce parc existe devrait nous dire quelque chose sur les relations étroites entre les États-Unis et le Canada. L'Arche de la Paix se trouve très près d'une extrémité de la plus longue frontière terrestre non défendue au monde entier. Elle mesure 8891 kilomètres de long. Et moi, plus je considère cette frontière étonnante et les relations entre les deux pays qui la définissent, plus je suis encouragé à ce que nous puissions faire mieux pour développer et pour promouvoir la paix dans nos vies. Le parc de la paix et la frontière elle-même sont des symboles forts de réconciliation, de paix et d'unité. Est-ce que ces symboles sont toujours importants, ce symbole de l'Arche de la Paix? Ce symbole est-il toujours reconnu pour ce qu'il représente? Ou commence-t-il à perdre son importance, son pertinence dans le monde qui nous entoure aujourd'hui? Pour moi, cette Arche de la Paix représente la solidarité entre les États-Unis et le Canada. Et c'était à la fermeture, au mois de mars, que les États-Unis, le Canada, se sont mis ensemble, se sont mis d'accord pour fermer la frontière canado-américaine. Mais, malheureusement, il semble que ce n'est pas aussi facile pour la réouverture. Il y a, sur l'un des côtés, les États-Unis qui ont déjà déclaré qu'ils ont envie de rouvrir certaines choses, de rouvrir les frontières même s'ils n'ont pas exprimé précisément la frontière canado-américaine. Par contre, sur l'autre côté, c'est quand même assez clair ici au Canada que le gouvernement n'est pas d'accord pour le moment de réouvrir la frontière. Et c'est dans le cadre de la protection de la population. Nous avons quand même des leçons à apprendre, à tirer de cet enjeu, de ces enjeux-là. On va peut-être penser que la paix, que ce soit entre des pays, que ce soit entre des personnes, est à la fois simple et compliqué. La paix, c'est simple parce que la paix, c'est simple, c'est-à-dire que quand on est en paix, on peut le ressentir. Et c'est très bien. C'est une simplicité Et on n'est pas obligé de prononcer des mots forcément pour sentir la paix. Donc, dans cette façon-là, la paix est simple. Mais dans la mise en pratique de la paix, pour y arriver, c'est quelque chose qui est des fois très compliqué. Donc, il y a quand même une certaine complexité pour avoir la paix. Mais en même temps, quand on l'a, il semble que c'est très naturel. La paix semble très naturelle lorsqu'on le connaît. Les manifestations peuvent-elles conduire à une plus grande paix? Je pense que nous pouvons tous reconnaître que les manifestations peuvent conduire au changement. Le problème auquel nous sommes confrontés, cependant, c'est que le résultat change rarement l'état de la paix. Souvent, on a un changement, on a un désaccord et puis on a un accord, mais on peut avoir un accord sans avoir la paix. La tension peut être très élevée même si un groupe qui manifeste atteint son objectif. Les émeutes démontrent la gravité d'une situation et surviennent généralement lorsque la voix de la protestation pacifique n'est pas entendue. La manifestation pacifique, si c'est pas entendu, des fois, ça se transforme en émeute. Peut-être cette voix est étouffée, ou c'est peut-être vrai que cette voix de manifestation n'atteint pas ses objectifs, même si on l'écoute. Des émeutes, des pillages et des destructions dans la société moderne se produisent également pour d'autres raisons. Mais de plus en plus, des émeutes sont acceptées comme la norme. Je crois que les émeutes sont quand même un symptôme de vivre dans un accord, mais sans vivre en paix. Parce que on peut avoir un accord qui va, entre guillemets, calmer la population, mais quand les gens ne sont plus calmes, alors les émeutes peuvent s'exploser. On peut même avoir les lois en place pour protéger certaines personnes, pour protéger des minorités, pour protéger quelques personnes contre la discrimination, le racisme, mais la loi ne suffit pas pour apporter la paix, n'est-ce pas? On a même des protestations, des manifestations pacifiques où les gens se mettent aux genoux, ils se mettent aux genoux, mais des fois, quand on est intéressé par une sorte de manifestation, entre guillemets, pacifique, on peut partir de chez soi, on peut quitter la maison avec une idée en tête de ce que va se passer, ce qui va se passer à la manifestation. Et on peut avoir des bonnes idées, de bons changements, des choses comme ça en tête. Mais arriver sur la scène, arriver dans un public avec un groupe, on est un peu soumis des fois aux émotions du groupe. Et donc même si moi j'arrive avec de bonnes idées, un certain esprit de paix, voilà, ça peut changer. Je peux être plus influencé parce que je suis entouré avec des manifestations. Vous le comprenez. Donc on peut quand même changer des idées et puis des manifestations paisibles peuvent devenir des émeutes et des problèmes. Bon, les frontières, de toute façon, sont toujours utiles. Ils sont importants pour définir le pays, l'étendue du pays. Ils sont importants pour définir un endroit où on va diviser deux pays. Notre famille, personnellement, voudrait l'ouverture de la frontière. J'ai une petite histoire pour vous montrer jusqu'à quel point cette fermeture de frontière aurait pu nous impacter. pendant la semaine du 8 mars, 9 mars, j'étais à Dallas, au Texas. Et c'était juste un peu plus une semaine avant la fermeture de la frontière canado-américaine. Et si j'avais été pris de l'autre côté de la frontière par une fermeture soudaine, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas s'ils auraient travaillé avec moi pour me permettre de rentrer au Canada, parce que je ne suis pas citoyen canadien. J'ai une famille ici, c'est sûr, mais d'après ce que j'ai compris, c'était pas assez pour que les gens passent, traversent la frontière. Donc, je ne sais pas si j'étais resté à Dallas, si j'étais pas rentré, je ne sais pas s'ils auraient travaillé avec moi pour me permettre de rentrer chez moi. Et puis, 3 mois plus tard, la frontière n'est pas ouverte. La frontière reste et demeure fermée. Pour moi, j'ai imaginé cette situation et ça m'a fait quand même peut-être comprendre mieux ceux qui se sont rejoints au parc pour les retrouvailles. Parce que j'étais à l'espace d'une semaine ou quelque chose comme ça, d'être bloqué aux États-Unis. Mais quelque chose d'intéressant par rapport à cette frontière qui n'a pas de défense, qui n'est pas défendue, c'est ça, c'est la frontière la plus longue du monde qui n'est pas défendue, qui n'est pas armée. Les États-Unis et le Canada doivent s'entendre pour l'ouverture ou la fermeture de la frontière. Il est intéressant que, en regardant ce cas, aucun des deux pays ne peut forcer l'autre à ouvrir la frontière sans déclarer la guerre, par exemple, sans aller jusqu'à ce point-là. Même s'ils essayaient de convaincre l'autre, ça serait pas vraiment avec l'intérêt commun entre les deux. Des négociations pourraient avoir lieu dans l'intérêt mutuel, mais l'une ne peut pas dominer l'autre. Un pays ne peut pas dominer l'autre pour dire « vous allez ouvrir », parce qu'en ce moment-là, si l'un des deux pays fermait pour toujours ou l'un des deux pays insistait pour l'ouverture, alors l'arche de la paix, ça n'a plus de sens, n'est-ce pas? On n'est plus d'accord. L'arche de la paix perd sa signification si on commence à partir dans ce sens-là. Donc, c'est quand même très intéressant à considérer parce que ça porte sur nos relations interpersonnelles aussi. Il y a des leçons dans les relations interpersonnelles cachées dans cette problématique de la frontière. Disons que les deux pays représentent deux individus. Les individus entrent en contact les uns avec les autres. Ils cherchent un accord parce qu'ils sont dans le même lieu. Peut-être, disons, à l'église. Peut-être que ces deux personnes ne se connaissent pas depuis longtemps. Mais ils sont tous les deux dans un endroit en commun. Les individus sont-ils conscients de leur individualité et de leurs différences et de leurs points communs? Est-ce qu'ils sont conscients de l'autre qui est face à face avec eux? Est-ce qu'ils sont conscients de leurs besoins et leurs sentiments? Et leur besoin d'être respecté aussi et de ressentir le respect. Est-ce que les deux parties peuvent demeurer en paix s'ils n'ont pas cette conscience, cette réflexion qui considère l'autre? Je dirais que ça peut durer, mais peut-être pas longtemps. Ça peut durer, mais peut-être pas très longtemps. Considérons dans le cadre de la coronavirus, La frontière est fermée entre les États-Unis et le Canada pour des raisons de santé. C'est pas l'idéal pour les deux, mais c'est fermé pour des raisons de santé. Et c'était mutuel, cette idée de fermeture. Un pays ne veut pas que l'autre provoque la propagation de cette maladie. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'État de Washington et l'État de New York, qui sont tout près du Canada, qui sont sur la frontière canadienne, sont deux des États les plus durement touchés par la crise. Donc encore mieux une idée de fermeture parce que si ces États sont vraiment touchés, frappés par cette maladie, on va quand même essayer de limiter la traversée de la frontière. Mais reprenons les relations interpersonnelles. Considérons que si on organise une assemblée sabbatique et si on se présente maintenant à une assemblée sabbatique, nous avons des enjeux que nous n'avons jamais vus. Nous ne connaissons pas les enjeux qui seront face à nous quand nous allons rentrer dans une assemblée sabbatique dans ce cadre du coronavirus. Nous avons une responsabilité d'être conscients de nos proches, de nos frères et sœurs. Et les mauvaises habitudes les uns envers les autres vont détruire la paix que nous pouvons avoir aux assemblées sabbatiques si nous sommes en train de se disputer sur des choses qui sont peut-être liées à ce coronavirus ou d'autres choses, si on amène la politique dans l'Assemblée, si on amène des choses qui sont pas censées être dans le lieu d'Assemblée, parce que nous sommes quand même, nous sommes ensemble sous le nom de Dieu, sous le nom de l'Église de Dieu, et Christ qui est la tête de l'Église. Et donc, si nous ne reconnaissons pas cette importance d'être unis, d'être en paix et de demeurer en paix, nous allons risquer de ne pas considérer l'autrui. Je sais que chez nous, maintenant, nous avons trois enfants. Et c'est presque tous les jours qu'on passe par des moments où les enfants entre eux ne respectent pas l'autre. L'un va faire un petit coude à l'autre. L'un va prendre quelque chose que l'autre aurait bien aimé prendre, l'un va jouer avec un jouet avec l'autre, ou l'un va prendre peut-être quelque chose à manger que l'autre voulait prendre. Et il y a toute une situation, toutes les situations tous les jours. Et puis après, qu'est-ce que l'autre va faire? Est-ce qu'il va hurler? Est-ce qu'il va crier? Je sais que notre William, qui a 3 ans, des fois, c'est sa réaction. C'est hurler. Parce que, en hurlant, il appelle à maman ou à papa et il marque le fait que lui, il a reçu une injustice. Donc, son état de hurler, sa façon de hurler, c'est une autodéfense dans un sens, mais aussi ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas du tout mûr, ce n'est pas quelque chose de sage. Ce n'est pas réfléchi. C'est une réflexe. Nous avons les mêmes tendances en nous, frères et sœurs, si nous ne sommes pas guidés par la paix du Saint-Esprit, par la paix qui est en Dieu. Et si nous ne nous efforçons pas à changer, à s'adapter à ces situations pareilles. Donc, nous avons quand même prévu un jour de reprendre les assemblées. Mais nous devons apprendre, comme mes enfants, la maîtrise de soi pour améliorer notre capacité à empêcher nos problèmes d'avoir un impact négatif sur les autres. Même si nous ressentons un peu de mal, si à l'intérieur, ça fait mal qu'on nous impose de porter un masque à l'assemblée ou ça fait mal de respecter la distanciation. Même si en nous, on n'est pas vraiment d'accord avec ça, même si nous avons une opinion là-dedans, notre effort, c'est d'être des procureurs de la paix. Nous pourrions être en désaccord sur l'efficacité du port d'un masque, sur l'efficacité des nettoyeurs, de l'efficacité de la distanciation. Mais nous ferons preuve de déférence envers notre frère, notre sœur, qui pense que c'est utile. Cela apporte la paix. Même si nous ne sommes pas en accord avec ça, nous pouvons vivre en paix. Voyez comme ça peut porter des bons fruits. Nous ne considérons peut-être pas qu'il est important de garder nos distances, mais nous ferons un effort pour être suffisamment conscients de nous-mêmes pour garder nos distances. Ou si on nous rappelle de le faire, nous ne nous en voudrons pas. Il faut quand même accepter avec paix, avec du calme, tranquillement, et considérer nos choix. Donc, cette période de temps, frères et sœurs, au cours de laquelle l'Église de Dieu recommence les assemblées, comme je vous ai dit, va nous mettre à l'épreuve d'une manière que nous n'avons jamais testée, nous n'avons jamais vécue. Cela va nous mettre dans de nouvelles situations. Mais en fin de compte, nous devons être ceux qui procurent la paix, surtout quand on est assemblé au nom de Dieu. Notre défaut, notre réflexe devrait être la paix, peut-être même la silence. Notre effort doit viser la paix. Notre silence de temps en temps, la tenue de notre langue sera également vers la paix. Le monde aujourd'hui a besoin de paix, pas de cérémonie, pas de monuments qui nous font des symboles, mais le monde a besoin de la paix qui va durer. C'est sûr que ces symboles nous aident à se souvenir de l'importance de la paix et que les gens se sont décidés dans le passé de se mettre d'accord sur quelque chose ou de définir quelque chose avec la paix en tête. Parce qu'ils voyaient des bénéfices mutuels, et dans le cas des États-Unis et du Canada, et j'aime ça, ils se voient comme frères qui demeurent ensemble. Et ils se voient aussi en train de demeurer sous un seul Dieu, sous un seul Dieu, ou sous une seule mère qui serait l'Église aussi. L'Église, ce serait peut-être l'idée de demeurer sous une seule mère. S'ils sont des frères et s'ils demeurent sous une seule mère, ils se sont mis d'accord. Et c'est comme ça que nous avons défini l'idéal. Ces personnes ont défini l'idéal de cette relation. Même si on passe par des moments où on n'est pas d'accord, où on a d'autres idées, où on a des disputes, on se retrouve quand même à la fin en famille. Et l'Église est une famille aussi. Nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a plus personne qui connaît la paix qui existait dans le jardin d'Éden. Nous pouvons seulement imaginer, avec l'aide de la parole de Dieu, la paix qui existait dans ce lieu incroyable, le jardin d'Éden. Aujourd'hui, peu de gens dans le monde entier ont connu la paix, même selon la définition actuelle de la paix. Je dirais que la majorité des personnes qui existent sur cette planète ont connu plus l'instabilité et la guerre que ceux qui ont connu la paix. Maintenant, considérons Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59 et le verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est quand même une déclaration très forte que ces gens-là ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a pas de justice. Dieu peut créer, par contre, un environnement qui favorise la paix, comme il a créé le jardin d'Éden. Ça, c'est une déclaration très simple, mais très puissante. Si Dieu a créé le jardin d'Éden, pourquoi la paix dans le jardin d'Éden n'a-t-elle pas duré éternellement? Nous le savons tous, c'était sous l'influence de Satan que, en fait, l'homme a fait un choix. Parce qu'avant, après tout, il n'y avait pas de dissension, il n'y avait pas de rébellion, il n'y avait pas cet questionnement de la voix de Dieu. Dieu était tout près d'eux, Adam et Ève. Mais Dieu a donné aux hommes le libre arbitre. Et le libre arbitre a été éprouvé et l'homme a échoué à l'épreuve. La paix qui existait dans le jardin d'Éden a été brisée parce que l'esprit et la lettre de la loi de Dieu ont été transgressés. Ils ont même menti à Dieu. Ils se cachaient de Dieu. Donc le berceau de la paix dans le monde entier a été perdu à cause d'un choix de l'homme. Quelles ont été les conséquences de mettre fin à cette paix? Souvenez-vous, ils ont été chassés du jardin. Il y avait des mauvaises herbes qui ont poussé. Il y avait des douleurs de l'accouchement. Des choses qui n'étaient pas avant. Dieu a permis, selon son dessein, le monde de continuer, et ça continue encore, sans une véritable paix, avec des douleurs, avec des problèmes, avec la mort, avec des souffrances. Et puis, l'homme a continué et continue toujours sur ce cheminement. Le meurtre d'Abel dans la première famille, la voix de Caïn, la violence qui a rempli la terre avant le déluge. Puis, l'homme avait un nouveau départ. Il y avait quand même la possibilité de vivre dans un monde nouveau. Ça me fait penser à nos peintures qui disent « ça va bien aller ». L'arc-en-ciel, symbole pendant cette pandémie. Et maintenant, presque en même temps que ces choses deviennent un peu, je ne sais pas, 2-3 mois d'âge, il y a des émeutes qui brûlent des villes maintenant. Dans les mêmes vitres où il y avait des arcs-en-ciel qui disaient « ça va bien aller », ces vitres ont été cassées dans plusieurs endroits. Ça n'a pas, dans le même sens, ça n'a pas duré longtemps après le déluge. Il y avait quand même le péché dans la famille de Noé. Après, il y avait Sodome et Gomorre qui a été détruite pour le mal. Il y avait le Fils de Dieu qui a été mis à mort par ceux qu'il était venu sauver. Il y avait la destruction du temple par les différentes envahisseurs. Il y avait la persécution de l'Église du Nouveau Testament. Et il y aura des événements majeurs, de guerre, de souffrance encore plus importants juste avant le retour de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, nous les voyons s'aggraver déjà. Bien que Dieu permet ces maux, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu essaye de ramener la paix. Certains essayent de ramener la paix, comme ceux qui ont construit cette arche de la paix. Mais malgré tout, c'est un tout petit contre-courant contre la marée. Nous avons vu dans le passé, en particulier dans le XXe siècle, des accords de paix avec l'OTAN et l'ONU. Nous avons vu des cris à promouvoir la paix comme le prix Nobel. Nous avons même aux États-Unis le corps de la paix qui essaie d'aller dans le monde pour servir des personnes pauvres et des communautés, des réfugiés. Il y a des unions économiques qui existent afin de promouvoir l'unité et la prospérité. Est-ce que ça existe réellement? Nous avons vu le Brexit, donc ça n'a pas duré longtemps, cette unité. Il y a même une sorte de paix bizarre entre les nations les plus puissantes du monde. On dit une guerre froide où on est en paix, pas vraiment, mais tout fonctionne comme si on était en paix. Mais derrière la scène, il y a des dépenses pour augmenter les bombes atomiques pour avoir ce qu'on appelait à l'époque la destruction mutuelle assurée. Avec cette connaissance que c'est Dieu seul qui est capable d'apporter la paix durable, alors comment réagissons-nous? Est-ce que notre réponse aujourd'hui, c'est de tout simplement laisser tout à Dieu, juste d'attendre? Qu'est-ce que la Bible nous instruit à faire? Aller manifester? Aller participer aux émeutes? Non, je ne crois pas. Les paroles de Christ trouvées dans Matthieu 5 et verset 9 donnent un aperçu de notre avenir dans le royaume de Dieu. Matthieu 5 et le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il est intéressant à moi que Jésus nous a donné quand même une instruction de ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit devenir, mais il nous a dit aussi ce que Dieu est en train de faire avec nous, de créer des fils de Dieu. Le monde a besoin de ceux qui procurent la paix aujourd'hui. Le monde à venir en aura besoin aussi. Si nous allons prendre cette exhortation au sérieux, nous devrions probablement avoir une bonne idée de ce que c'est quelqu'un qui procure la paix et comment nous pouvons faire. La commentaire de Matthew Henry dit à propos de ceux qui procurent la paix, les pacificateurs sont heureux. Ils aiment la paix et ils la désirent. Ils étudient la silence pour rester tranquilles. Ils gardent la paix qu'elle ne soit pas perdue. Et il la récupère quand elle est perdue. Si les pacificateurs sont bénis, malheur à ceux qui mettent fin à la paix. Donc, la parole de Dieu clairement nous dit d'être des procureurs de la paix, de procurer la paix. Donc, Dieu marche dans la voie de la paix depuis l'éternité. Vous pourriez dire qu'il y a une chose ou deux à enseigner aux hommes, par rapport au rôle de pacificateur ou de procureur de paix, Dieu est capable de nous enseigner parce qu'il demeure dans la paix depuis l'éternité. Même le Père et le Fils demeurent en paix. Ils sont unis dans ce sens-là aussi, dans l'idée. Dieu veut que ses enfants apprennent la façon de profiter des bienfaits de la paix en devenant comme lui. Même Jésus-Christ est parti de ce monde en nous instruisant de rester en paix, de créer la paix qui existe entre lui et son Père. La parole de Dieu nous apprend à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est Matthieu 6, 33. Ceux qui procurent la paix démontrent et développent un aspect de caractère divin. Cette justice de Dieu que le Christ nous exhorte à chercher est semblable au caractère de Dieu. Et dans le cadre de la paix, nous pouvons imiter la paix qu'a portée Jésus-Christ. Nous avons donc une exhortation double, Une partie nous instruit de garder nos yeux fixés sur quelque chose qui est au-delà des troubles de ce monde, de regarder le royaume à venir et de le chercher. De l'autre côté, il nous demande à chercher ou de chercher à développer le caractère divin, la justice de Dieu. Donc, la réponse est, il ne suffit pas d'attendre le retour de Jésus-Christ. Nous sommes obligés, nous sommes appelés aujourd'hui pour agir en paix, pour devenir des procureurs de la paix, des pacificateurs. Pour développer ce trait de caractère, ça implique de rechercher une manière pacifique d'interagir avec Dieu et avec nos proches, d'interfacer. Elle implique également la recherche pour promouvoir les interactions pacifiques entre autres aussi. Donc, non seulement notre relation avec Dieu ou notre relation avec quelqu'un d'autre, mais même les relations entre autrui. C'est dans ces domaines-là que nous pouvons agir aujourd'hui également. Aujourd'hui, l'homme n'est pas en paix avec ses proches, avec son prochain. L'homme n'est pas en paix aujourd'hui avec son Créateur. Mais les hommes ne sont même pas en paix avec eux-mêmes. Donc, nous allons diviser cette étape, cette action en trois zones distinctes basées sur la recherche de la paix. Donc, pour retrouver, pour développer ce caractère, ce trait de caractère, nous pouvons agir sur ces trois domaines. La paix avec Dieu, la paix avec notre prochain et la paix avec nous-mêmes. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève jouissaient d'une paix inconnue de l'homme aujourd'hui. Les choix qu'ils ont faits ont eu des conséquences qui les ont déclenchés d'être exclus de ce jardin et aussi de leur relation étroite avec Dieu. Le second Adam, Jésus-Christ, donna à l'homme la possibilité d'avoir une relation intime avec Dieu, encore une fois. Mais il est encore un choix que nous devons faire. Nous sommes appelés, mais comme nous avons dit la semaine dernière, il faut choisir. Il faut qu'on choisisse ce cheminement. Il faut qu'on accepte cet appel. Le chemin de la paix avec Dieu est une façon de l'obéissance à Dieu. C'est un acte d'amour. Et c'est à l'inverse de la rébellion et de la recherche pour soi-même. Donc, le psaume 119 et le verset 165 nous indiquent « Grande est la paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. Grande est la paix pour ceux qui aiment ta loi. » La loi de Dieu est la base de toutes les bonnes relations, nous montrant comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain. Considérons Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37. C'est un résumé, ce n'est pas un moment où Jésus détaillait tous les aspects de la loi de Dieu, mais c'est quand même un résumé pour nous démontrer que ça n'a pas été aboli. C'était toujours important, et c'est toujours important, de respecter, de garder la loi de Dieu. Parce que c'est écrit sur notre cœur, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et je m'arrête là pour dire, si quelqu'un fait ceci, n'est-ce pas cette personne une personne en paix? Est-ce que cette personne, si vraiment cette personne aime le Seigneur de tout son cœur, de tout son cœur, de toute son âme, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le bousculer, qui peut le déstabiliser? On peut vraiment passer par des moments difficiles. Mais cette relation étroite avec Dieu, c'est notre ancre. C'est notre ancre, c'est notre relation solide. C'est bâti sur la roche. Et puis, verset 38, ceci est le premier et le plus grand commandement. Puis, verset 39, Jésus nous dit, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Sur ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, Jésus a validé la loi et les prophètes avec ses paroles. Mais les gens aujourd'hui veulent dire, on fait ce qu'on veut et on fait tout et puis Dieu nous pardonne tout parce qu'on fait n'importe quelque chose, parce que c'est pour ça que Jésus est venu, c'est pour nous libérer de la loi. C'est ça que le monde chrétien, entre guillemets, peut nous dire aujourd'hui. Mais la paix avec Dieu nous donne le pouvoir de réjouir et de rendre grâce à Dieu, même face aux épreuves. Donc, il faut comprendre et il faut se soumettre à la volonté de Dieu au lieu de faire des coups de pied et de se révolter contre Dieu. C'est ça à la base de notre paix, de la paix que nous pouvons procurer. Ça commence avec cette relation étroite avec Dieu. Passons maintenant à notre paix avec nos prochains. Considérons Matthieu 5. Matthieu chapitre 5 et verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites au bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous utilisent et qui vous persécutent. Il y en a d'entre nous qui peuvent prier pour beaucoup, beaucoup de personnes. Des fois, on a l'impression que si on respecte ce verset 44, ben on va prier pour beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Et on va bénir beaucoup de personnes. Verset 45, « Que vous soyez fils de votre Père dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » Voilà comme les choses continuent depuis le tout début, c'est que Dieu laisse faire ce monde. Dieu, il laisse le choix, il laisse le libre arbitre à l'homme aussi, en général. Donc, quand il s'agit de nos relations avec nos proches et nos prochains, nous avons la possibilité de chercher à comprendre notre prochain, de chercher à respecter, malgré, comme Jésus indique ici, malgré leur persécution, malgré l'injustice. Et nous pouvons quand même chercher à aider, à rendre service, à prier pour eux. Nous avons quand même un adversaire, Romains chapitre 12. Nous avons un adversaire, mais nous avons aussi des ennemis, des adversaires dans le monde aujourd'hui. Nous avons passé par des moments où on a peut-être des adversaires qui nous persécutent. Romains chapitre 12 et le verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce que c'est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où de plus en plus nous sommes obligés de surmonter le mal. Quand le mal se produit partout, nous sommes obligés de répondre avec le bien. Qu'est-ce que le bien? C'est encore une fois notre bonne relation étroite avec Dieu, l'obéissance à sa loi, de mettre sa loi dans notre cœur, de l'obéir, de suivre sa volonté, mais aussi envers nos proches, nos prochains et nos frères et sœurs de l'Église. Nous sommes appelés à refléter cette lumière qui brille et nous sommes quand même appelés pour être des procureurs de la paix, pour procurer la paix. Considérons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, vis-à-vis des autorités de ce monde, cet appel est encore applicable. Il n'y a pas d'exception. 1 Pierre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence des hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté en voile, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Ce verset 17, vraiment, c'est emblématique et c'est vraiment quelque chose qui peut nous encourager. C'est un sommaire de beaucoup, c'est un résumé de beaucoup, beaucoup d'instructions. Donc, dans tous les domaines de la vie, nous pouvons pratiquer ces choses. Honorer, aimer, craigner. Et donc, ça nous pousse vers la paix, la voie de la paix, que Ésaïe a dit qu'ils n'ont pas connu la voie de la paix. Nous pouvons connaître la loi et la voie de la paix. L'apôtre Paul pensait aux frères et sœurs de l'Église. Il se souciait de la paix d'entre eux. Si jamais vous avez l'occasion de faire une étude biblique personnelle à Thème, une chose que vous pourriez chercher, c'est l'expression parmi vous qui se trouve plusieurs fois dans les épîtres de Paul. Il se souciait de cette relation entre frères et sœurs. Considérons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 18. Verset 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Où maîtrisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc, ce sont des divisions, des sectes. Le manque de respect, le manque de cette attitude d'apporter la paix qui en résulte ici en quelque chose qui déchire, qui détruit l'unité de l'Assemblée. Il y a même, nous avons assauté quelques versets pour se trouver au verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et avec un grand nombre sont morts. Donc, nous avons quand même ici un exemple d'une vraie division et d'un non-respect. Et ce non-respect les uns les autres peut amener à leur non-respect de Dieu aussi et le respect de l'Église. C'est ça. Paul le voyait tout lié. Ce respect, cette attitude d'être conduit par Dieu et de respecter sa voix. Jacques aussi mentionnait ces choses. Jacques chapitre 4. Il soulignait ici la division qui existait entre frères et sœurs et les mauvaises choses qui en résultaient quand il n'y avait pas la paix, quand il ne connaissait pas le chemin de la paix. Jacques chapitre 4 et verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitiez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, de luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. » Donc, combien de fois la soumission, l'humilité sont-elles mentionnées pour arriver à ce chemin de la paix? Ce chemin de la paix implique aussi l'humilité dans nos relations. Encore une fois, être un procureur de la paix exige une action. La lettre et l'esprit de la loi de Dieu nous montrent la façon d'agir d'une manière qui procure la paix. Nous sommes en train d'être instruits et formés pour être de plus en plus des procureurs de la paix. Dernier petit point, c'est la recherche de la paix avec nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons quand même des données, malheureusement, face au sondage actuel, et on le voit maintenant apparaître dans nos vies. Le taux de suicide monte dans le monde. Le taux de violence en familiale, en vie conjugale. Le taux de problèmes d'abus des enfants. Toutes ces choses montent aujourd'hui. Et je dirais que beaucoup de cette violence, c'est clair que beaucoup de cette violence arrive d'un point de vue où on n'est pas en paix avec nous-mêmes. Dieu peut nous pardonner, mais nous pouvons oublier de nous pardonner nous-mêmes. Et ça bloque la voie de la paix. Ce sentiment de la culpabilité doit normalement nous pousser à la repentance. Il doit s'arrêter une fois que Dieu nous a pardonné. Quand Dieu nous pardonne, nous sommes censés de nous pardonner également. Nous acceptons que Dieu nous a donné un processus, un cheminement vers une paix interne aussi. Et nous pouvons réfléchir, nous pouvons imaginer la paix qui va s'installer après le retour de Jésus-Christ et après le changement, l'héritage que nous attendons pour l'avenir. Donc nous pouvons, avec patience et avec soin, nous pardonner de nos péchés aussi, de nos fautes, de nos problèmes que nous avons créés. Parce que Dieu a envie de nous pardonner aussi, mais il faut changer. Il faut qu'on change, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on fasse une vraie repentance pour profiter de cette paix qui peut s'installer en nous. Donc, à la fois, nous avons la paix avec Dieu, la paix avec le prochain et la paix en nous-mêmes. Les trois sont très importants. Nous lisons dans les psaumes des moments dans la vie de David, où il était vraiment troublé. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour trouver cette paix interne? Il a prié Dieu. Et c'est Dieu qui l'a donné, la paix qu'il cherchait. Donc, d'ici peu, le 14 juin, en fait, il y aura une célébration, une cérémonie virtuelle cette année, qui se passera à l'Arche de la Paix. Cette cérémonie est une parmi d'autres qui se fait tous les ans. Et cette cérémonie aujourd'hui sera pour célébrer l'unité et la paix qui existent entre les États-Unis et le Canada. Ils le font depuis plusieurs années et ils le feront en virtuel cette année. Cette célébration inclut et normalement a déjà inclus un échange de cadeaux entre de jeunes gens et autre chose aussi, des défilés sous le portail de l'Arche et des levées de drapeaux aussi, des cérémonies des anciens combattants. Comment la réflexion sur notre patrimoine sous Dieu, au nom de Dieu, peut-elle apporter la paix dans nos vies? Ben, j'espère que ça peut renforcer notre esprit d'humilité. Ça peut nous rappeler de l'importance de procurer la paix. La paix est quelque chose à reconnaître et à rechercher. C'est pour ça que Dieu nous explique que heureux ceux qui procurent la paix. Ce sont les fils de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui procurent la paix et qui ont quand même ce rôle dans l'avenir pour procurer la paix dans le monde entier. Je voulais, avant de terminer, vous montrer ce qui est écrit à l'intérieur de l'Arche de la Paix. À l'intérieur de cette arche, il y a quand même un portail en fer forgé qui existe. Mais ce portail, il n'est même pas vraiment, il n'a jamais été fermé depuis son installation sur l'Arche de la Paix. Donc, ce portail est presque collé sur le mur de chaque côté de l'Arche de la Paix. Et au-dessus de ce portail, il est écrit en grandes lettres 1914, ouvert pendant 100 ans. Donc, maintenant, c'est déjà passé 2014. Donc, ce portail reste ouvert depuis plus de 200 ans maintenant. Et puis, sur l'autre côté, il y a le portail qui existe là aussi. Et c'est écrit que ces portails ne soient jamais fermés. Que ce portail ne soit jamais fermé. Ça nous indique que même si on a obtenu la paix pour aujourd'hui, c'est quelque chose à poursuivre, à procurer pour toujours.